Chapitre 12. Je retourne régulièrement à l'hôpital pour des rendez-vous de suivi avec la chef du département neurologie qui s'occupe de mon cas. Dans le service, tout le monde me salue gentiment, avec néanmoins un petit sourire en coin. Il y a même des infirmières qui m'appellent encore « Altesse ». Je me contrôle désormais assez pour ne plus les bannir hors de la ville à coups de tongs. Théo m'a expliqué qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison de me vexer. Je dois même me montrer reconnaissante qu'elle ne se soit pas offusquée d'avoir été considérée comme des domestiques que j'ai voulu fouetter. J'en suis mortifiée et elles en rigolent encore. C'est parfait ainsi. Si j'avais été la fille du Maharaja, il se serait produit exactement l'inverse. Elles auraient été mortifiées et j'aurais bien ri. Quelle horreur de constater de quoi un humain est capable simplement parce qu'il s'y croit. Avant de frapper à la porte du docteur Lamar, je prends le temps de respirer. Étrange sentiment. De fait, je suis intimidée. À ce jour, aussi loin que je m'en souvienne, c'est-à-dire pas très loin, c'est la personne qui m'impressionne le plus. Elle utilise des termes scientifiques, s'exprime avec précision. J'apprécie sa façon franche de me regarder dans les yeux. Elle n'a pas peur, ni de moi, ni de mes prétendus comportements infantiles. Mélanie dit que c'est parce qu'elle ne fréquente que des zinzins et des frappatocs et qu'elle est habituée. Peut-être, mais je l'aime bien quand même. Elle n'essaie pas de me faire croire qu'elle sait quand ce n'est pas le cas. Elle me parle comme à quelqu'un qui peut comprendre, et même lorsque l'on est enfant, il est appréciable de ne pas être pris pour un simplet. Entrez. Bonjour, docteur.
Bonjour, Laura. Comment allez-vous aujourd'hui?
Plutôt bien, je vous remercie. Et vous-même?
Tout va bien, merci.
Je ne sais pas exactement pourquoi, mais chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il faut dire ces phrases. Une sorte de rituel d'échange en vigueur au sein de notre espèce. Parfois, les gens se soucient réellement de votre état, mais le plus souvent, ils prononcent ces formules machinalement en se moquant complètement de votre réponse. Je le sais parce que la semaine dernière, à quelqu'un qui me demandait comment j'allais, j'ai répondu pour vérifier que j'allais hyper mal et que j'allais crever. Il m'a quand même souhaité une bonne journée et m'a tenu la porte pour que je sorte. Il voulait peut-être que j'aille claquer dehors. Installez-vous. Elle m'observe. Votre cicatrice ne se voit presque plus, c'est excellent. Je mets de la pommade comme vous me l'avez prescrit.
Très bien.
N'arrêtez surtout pas et vous serez toute belle pour l'été. Votre sommeil est-il bon? Aucun cauchemar, pas de suée? Je dors comme un bébé. Mais je me suis quand même aperçue que, quand je suis impatiente de faire quelque chose le lendemain, je dors moins bien et je me réveille plus tôt. Elle griffonne quelques mots sur son bloc. J'aimerais bien savoir ce qu'elle écrit. Surtout maintenant que je sais lire sans suivre les mots avec le doigt. Je vais vous poser la même question qu'à chacune de nos rencontres. Ne vous inquiétez pas, je cherche simplement à suivre votre évolution. D'accord. Quel est le plus ancien souvenir qui vous est revenu dernièrement? J'en ai retrouvé quelques autres. Certains moments me reviennent par bribes. Un Noël où j'avais reçu une diligence du Far West. Une chasse aux œufs en chocolat qui m'a rendue malade. Une chute de vélo. Le bisou d'un garçon aussi. Je devrais dire les bisous. Je rougis. C'est très positif, me rassure-t-elle. Vous n'avez aucune idée du délai qu'il me faudra pour tout récupérer? Aucune, Laura. Le cerveau est une petite merveille extrêmement complexe dont nous ne sommes pas capables de prédire les réactions ou les cheminements. Chaque cas est particulier et vous êtes unique. Je le savais. À ce sujet, j'ai reçu un appel de votre amie Lucie qui m'a fait son rapport avec une grande précision. Elle prend son rôle vis-à-vis de vous très au sérieux. Elle m'a parlé de ce programme Tarte, je crois. C'est une idée atypique, mais pourquoi pas? La science progresse parce que l'on met en place des solutions inédites. Me voilà encore considérée comme un cobaye.
Ce n'est pas ce que je préfère. Surtout avec Lucie, dans le rôle du savant fou. J'ai également discuté avec votre frère, Théo. Il m'a confié que, parfois, vous faites preuve d'une maturité cohérente avec votre âge et votre personnalité, mais que souvent, sans qu'il puisse trouver d'explication rationnelle, vous avez, je le cite, « de vrais dysfonctionnements » qui provoquent ce qu'il appelle pudiquement « de charmants décalages ». Je reste muette. Qu'elle ne compte pas sur moi pour avouer quoi que ce soit. Elle consulte ses notes. Votre amie Lucie m'a ainsi fait part de quelques anecdotes, comme cette soudaine crise de panique dans une animalerie lorsque vous avez aperçu la photo géante d'un poney. J'ai pris peur, au point de vous enfuir par une sortie de secours en jetant à terre le vigile qui tentait de vous retenir. Ils ont mis plus d'une heure à vous retrouver. Vous étiez terré à plat ventre sous un camion. C'est bien ça? Je regarde mes pieds en me tordant les doigts. Laura, vous vous rendez compte des risques? Que serait-il arrivé si le camion avait démarré? J'aurais maigri un grand coup. Me voilà encore accusée de tout, mais je ne suis pas décidée à me laisser faire. C'est toujours ma faute. Lucie ne vous a pas dit que, profitant de mon état, elle avait essayé de me faire croire qu'elle contrôlait la télé par la pensée? Jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle cachait une télécommande sous ses cuisses. Elle plissait les yeux et prenait un air concentré pour régler le volume du son ou changer les chaînes. Je ne suis pas la seule à avoir besoin de soins. La neurologue réprime un rire. Sa maîtrise force l'admiration. On doit aussi leur enseigner cela pendant leurs longues années d'études. Pourtant, sur le fond, cela ne résout en rien mon problème. On se moque encore de moi. Je lui parlerai, Laura. Comptez sur moi. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Votre évolution se poursuit dans le bon sens. Rappelez-vous que nos comportements sont le fruit de notre expérience, celle dont nous héritons et celle que nous accumulons. Puisque vous avez oublié certains pans de votre mémoire, il est logique que votre façon d'agir s'en trouve modifiée et revienne là où tout commence. À l'enfance. C'est un chemin que nous faisons tous, particulièrement sur nos premières années de vie, mais que vous êtes en train de refaire bien plus rapidement. Je vais à nouveau avoir de l'acné plein la figure ? Elle sourit. Non, Laura, ce cheminement n'est que psychologique. Vos évolutions physiques ou hormonales n'ont subi aucune régression. Je m'en doutais aussi. Les bébés ne font pas un 90B. Ou alors, ce sont des bébés sumo. Pouvons-nous aborder le chapitre de vos rapports aux autres? Où en êtes-vous sur ce point? Je fais maintenant la différence entre les proches et les inconnus. Très bien. Avez-vous la sensation de retrouver la maîtrise de votre conscience sociale? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question. J'ai du mal à me concentrer, d'autant que, sur son bureau, je viens de remarquer un bonbon qui dépasse de derrière une pile de dossiers. J'ignore ce qu'est une conscience sociale. C'est ce qui vous permet de vous situer et d'interagir avec votre environnement humain. Ce concept-là me semble plus complexe à appréhender que les haricots verts, la chasse d'eau et les passages piétons. Je ne sais pas trop. Il y a cependant une chose dont je suis certaine. Ce que je ressens, ce que j'éprouve, est bien plus puissant que mes réflexions construites. Mon intellect se fait régulièrement déborder par des émois de toutes sortes qui me submergent. Je réagis à tout et à tout le monde. Rien ne me laisse indifférente. Je perçois les humeurs, les énergies, les peines et les joies aussi. Très intéressant. Les enfants sont comme ça aussi, mais en grandissant, ils apprennent à filtrer les émotions qu'ils reçoivent, tout comme celles qu'ils émettent. Je trouve cela très triste, mais je me garde de lui dire parce que c'est une adulte. J'adore ressentir, découvrir, partager. Je n'ai pas envie que cela s'arrête parce que je grandis à nouveau. Est-ce qu'avant mon accident, je filtrais tout ainsi? Il faudrait que je demande à ceux qui me connaissent. Votre ami et votre frère m'ont précisé que vous posiez énormément de questions. Comment vos proches réagissent-ils ? Ils se montrent patients et bienveillants ? Ils répondent ? Je sens bien qu'il leur arrive d'être désarçonnés par mes interrogations. C'est amusant parce que parfois, je connais déjà un peu la réponse, alors du coup, ce qu'ils me confient révèle qui ils sont. En me parlant, ils se dévoilent. Certains ne sont pas très à l'aise avec les sentiments. D'autres font des phrases très compliquées pour dire des choses simples. J'entends de tout. Comme je ne me souviens pas de nos liens, les gens que je questionne m'expliquent aussi souvent eux-mêmes ce que je représente dans leur vie. Qui je suis pour eux ? Je les trouve touchants. Elle sourit encore. Votre cas est décidément passionnant. Vous vivez quelque chose d'assez rare. Votre mémoire affectée se reconstruit d'une façon particulière, fragmentée. Comme si vous réappreniez à vous servir de ce que vous avez déjà en vous. Les mêmes outils, mais utilisés d'une manière nouvelle. Le décalage entre votre maturité inconsciente et votre maîtrise des codes de la vie semble provoquer une approche surprenante. C'est très inhabituel. Accepteriez-vous qu'en plus de vous suivre, je vous étudie d'un point de vue clinique pour en tirer une éventuelle publication scientifique? À condition que je ne finisse pas dans un bocal de formol, comme une de ces pauvres curiosités de foire. Jamais. J'aurais trop peur que vous me transformiez en statue de beurre de cacahuète maudite, exposée sur la place du marché. Je vous ai menacé de ça ? Entre autres. Je suis navrée. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. On a tous nos moments de faiblesse.